Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic
et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui l'écrivain cinéaste Robert Bobert pour son dernier film « Vienne avant la nuit » qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans ce documentaire à la première personne, Robert Bobert, vous allez à la rencontre de votre arrière-grand-père, Wolf Leib Frankl, de la Pologne à Ellis Island, puis à Vienne où il termina sa vie. Vous tentez de raconter son histoire, de le saisir, en partant de quelques traces. La photographie d'un juif pieux à la barbe blanche devant un livre sacré et deux chandeliers fabriqués de sa main. Armé de ces lueurs fragiles, vous vous rendez en train à Vienne à la recherche du passé. Pour vous éclairer, vous convoquez les films de Max Ophüls, les textes d'Arthur Schnitzler, de Joseph Roth, de Stefan Zweig, et vous faites surgir un monde disparu. Ce monde, c'est celui de Vienne avant le crépuscule, mais surtout celui de ces Juifs venus de toute l'Europe qui firent de cette ville ce qu'elle était, avant que la nuit nazie ne tombe sur elle. Alors j'aimerais que vous nous racontiez comment cette quête a commencé.
Alors, ça a commencé par mon arrière-grand-père. Le premier film que j'ai fait, c'est en janvier 67, s'appelait Sholem Aleichem, un écrivain de langue yiddish. Je me suis dit, voilà, pour le premier film que je fais, je vais commencer par ça et je passerai à autre chose après. Alors j'ai fait autre chose après, mais j'ai continué finalement. Et dans ce film, il y avait déjà la photo de cet arrière-grand-père, ignorant la place qu'il prendrait par la suite. Et en fait, cet arrière-grand-père, il m'a toujours accompagné, et de plus en plus. Alors le fait que je vieillis, moi aussi, il est sûrement pour quelque chose, et que j'ai eu le sentiment de plus en plus que le personnage de ma famille qui m'avait le plus transmis quelque chose, c'était lui, alors que je ne l'avais jamais connu. Lisant Stefan Zweig, ou Kafka, ou Schnitzler, ou Roth, je me suis rendu compte que c'était des livres dans lesquels je rentrais le plus facilement. Et j'ai mis un certain temps à comprendre que, à son insu, celui de mon arrière-grand-père, c'est parce qu'il avait sûrement laissé des traces en moi. C'est Arlette Farch qui dit que nous sommes constitués d'événements dont nous n'avons pas le souvenir, et je crois que c'était exactement ça.
Donc vous dites que c'est aussi parce que vous avez pris de l'âge et parce que vous êtes grand-père à votre tour.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre avec ce film ?
Alors, est-ce qu'on veut transmettre quelque chose ? C'est quelque chose qu'on se dit, mais moi j'ai écrit le film tout en y pensant beaucoup. Je me suis rendu compte que des choses qui sont dans le film étaient déjà en partie dans un livre que j'avais écrit. Les choses se font petit à petit, et puis quand on fait un documentaire, bon, alors, moi, j'ai l'habitude d'écrire en même temps, en pensant aux images, d'écrire un texte, sachant qu'il n'est pas définitif. Le texte est définitif lorsque le film est terminé. Et petit à petit, le fait d'écrire me renvoyait à un tas de souvenirs, et puis je me suis dit, c'est bien, je continue, malgré mon âge, à être curieux. Et voilà, j'avais envie d'en savoir plus à travers lui, sur ma famille, et puis de raconter des choses qu'on espère ou qu'on pense universelles. Je crois qu'il faut partir d'une histoire personnelle. Mmh. Et voilà, mais dire en quelques mots, ou même par des mots, simplement ce que j'ai voulu transmettre, je serais incapable de le dire. Mais j'espère que quelque chose se transmet tout de même.
Oui. Parce qu'en fait, il semblerait, quand on voit le film, que vous recomposez une famille à l'aide d'images que vous empruntez aux autres, notamment à Max Ophüls et à quelques films yiddish. Et on a l'impression que vous recomposez une origine qui vous manque. Vous dites dans le film quand même que vous êtes grand-père vous-même. Mmh. Donc c'est comme si vous reconstruisiez votre famille et la famille originelle. Et que ça, c'est donc un acte...
Oui, alors j'en ai pas eu conscience tout de suite. Par contre, le lendemain de la sortie du film, va sortir un album qui porte le même nom, avec le texte du film, et plus des réflexions, des chansons, des poèmes, etc., des dessins en plus, des photos. Et en annexe, je fais une généalogie.
Oui.
Et je montre à ce moment-là ma famille, mes parents, mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai eu besoin de dire en plus du film. Et voilà. Mais je ne savais pas du tout au moment où je faisais le film qu'il y aurait un album.
Oui, parce que le film se termine, enfin, je ne dévoilerai pas tout, mais c'est quand même sur une photo de groupe où vous rendez hommage.
Oui, oui, oui. Il y a cette photo que j'ai toujours eue chez moi. Photo. C'est par cette photo que j'ai appris les noms des membres de ma famille paternelle, maternelle. Et il y a 20 personnes, dont cet arrière-grand-père, une photo qui a été prise pour ses 75 ans, et où des gens sont venus de Pologne, d'Allemagne, etc., pour cet anniversaire. Et autour de lui, il y a 19 personnes. Sur ces 19 personnes, il y en a 11 dont je suis sûr qu'ils ont été déportés. Ça, j'ai retrouvé ça. Une douzième, on ne sait pas trop. Voilà, donc ils sont là, et cette photo, elle est chez moi. Voilà, mes petits-enfants me demandent le nom d'un tel, d'un tel. Et c'est bien parce qu'ils le savent maintenant, alors que pour eux, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Et moi, j'ai attendu d'être un adulte en âge avancé pour connaître tous ces noms. On regrette toujours de ne pas avoir posé cette question à ses parents.
Et vous dites, ce que vous ne savez pas, vous l'avez inventé aussi.
Oui, l'imaginaire prend beaucoup de place. J'arrête pas de le dire. Bon, je n'ai pas connu cet arrière-grand-père. Il y a ce que je sais, ce que ma mère m'a raconté. Elle l'a peu connu également parce que elle était enfant quand elle est partie de Pologne avec ses parents pour aller à Berlin, ce qui n'était pas la meilleure adresse. On est venu en 1933 en France. Alors, je me suis dit, je suis condamné à imaginer. Mais est-ce que c'est mal d'imaginer? Je crois que c'est bien d'imaginer. Parce que finalement, vous avez parlé des dessins du petit train. Finalement, j'ai imaginé la vie de mon arrière-grand-père. Et je crois qu'elle est peut-être plus juste. L'image que je m'en fais est peut-être plus juste que ce qu'on m'aurait peut-être raconté. Elle est peut-être enjolivée, j'en sais rien.
Bah, c'est une séquence très saisissante dans le film.
Oui, je me suis inspiré. Bon, je suis. Pour moi, Max Ophüls est le cinéaste de référence pour moi. Je ne sais pas si c'est le plus grand, ça n'a pas d'importance. C'est celui dont je me sens le plus proche, pour un tas de raisons. D'abord parce qu'il est lui aussi, il a fui l'Allemagne en 1933. Pas d'abord, mais enfin aussi pour ça. Et puis, voilà, c'est un cinéma dans lequel je rentre. Et puis, la première séquence où le meneur de jeu, Anton Valbrouck, dit « J'adore le passé », c'est tellement plus rassurant que le présent. Donc c'est tellement plus satisfaisant que le présent et tellement plus sûr que l'avenir. C'est pas dans les pièces de Schnitzler. Schnitzler est mort en 1931. Donc il ne savait pas ce qu'allait se passer. Ophüls a fait ce film dans les années 50. Il savait, lui, ce que serait l'avenir. Et si on entend deux fois cette phrase dans le film, c'est précisément pour que les gens se posent la question sur le passé, le présent et l'avenir.
Mais non seulement vous empruntez des images à Max Ophüls, mais vous lui empruntez aussi un procédé que vous renouvelez séquence dans le train où défile derrière les vitres d'un train.
C'est même pas un procédé. Alors là, c'est une séquence de Lettres d'une inconnue que Max Ophüls a tournée aux États-Unis. Et d'après une nouvelle de Stefan Zweig, et comme il ne peut pas tourner le petit train qu'on voit dans le Prater, il est aux États-Unis, finalement, là aussi, je me suis rendu compte que ce train était plus réel dans son imaginaire.
Parce qu'on voit des paysages de carton-pâte défiler derrière.
Et nourri par l'exil, nourri par la nostalgie. Et ce petit train, de toute façon, au Prater aussi, les trains sont des faux trains. Et je me suis dit, mais c'est ça, il est exilé, il imagine le Prater, ce petit train n'existe plus, cet arrière-grand-père est mort, je vais m'imaginer, moi, dans ce petit train avec lui, me racontant sa vie. Et donc, il n'était pas question pour moi de voir défiler ni des photos, parce que les photos c'est le réel, ça aurait été mensonger, ni des archives, mais des dessins. Les dessins font appel à l'imaginaire et je peux mettre dans les dessins ce que je veux. Donc j'ai écrit un texte, le faisant parler en yiddish, bien évidemment.
Et c'est une séquence dans laquelle on rentre comme dans un rêve. C'est-à-dire, vous partez sur les lieux réels, à Vienne, les lieux réels où vous voyez surgener votre grand-père, et finalement, vous rentrez dans un monde imaginaire, vous recréez ce monde. Jusqu'à se demander quand même, parce que dans le film est posée la question, que reste-t-il de tout cela aujourd'hui, de ce monde disparu? Et vous allez chercher les traces, et ça donne lieu à une séquence qui est une séquence assez émouvante, où vous avez distribué des journaux...
De 1938. Où il est question de l'Anschluss, de la nuit de cristal, où les Autrichiens qui ne veulent pas du tout, je parle d'une Autriche oublieuse, donc qui ne veut pas absolument pas regarder son passé, et les gens, non pas qu'ils refusent de parler de ça, pour eux c'est pas leur histoire, ils considèrent que ce n'est pas leur histoire. On leur parlerait de quelque chose qui s'est passé en Centrafrique, ça serait la même chose. C'est loin d'eux, et c'est pas eux.
C'est pas eux.
Non, c'est pas eux pour eux.
C'est pas eux pour eux, mais ça, c'est effectivement une scène assez importante.
Oui, parce que je tourne. Tous mes films documentaires, je les tourne au présent. Donc, j'ai tourné ce film en 2015. Je l'ai préparé bien en amont. Et en 2015, voilà ce qu'on apprenait. Et je déteste les films où il y a des séquences tournées dans le présent qu'on déguise comme si ça avait été filmé avant. C'est encore, une fois de plus, un mensonge. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense actuellement. C'est ce que je vois. C'est ce qui m'est donné à voir. Et c'est ce que je filme.
Et alors, j'ai une question. Moi, j'avais une question... Est-ce que vous avez connu des impasses en réalisant ce film? Et inversement, est-ce que vous avez trouvé des choses que vous n'espériez pas?
On n'espère pas... Enfin, d'expérience, je sais qu'il ne faut pas trop espérer. Et d'expérience, je sais qu'il faut être attentif. Mais je crois qu'il paraît que je suis quelqu'un qui est très attentif. Par exemple, il y a un cousin que connaissait l'existence, mais avec qui je n'avais jamais parlé, j'étais même pas sûr qu'il était là. Et si ce cousin avait accepté de me parler, le film aurait été différent. Mais ça, c'est le tournage qui me le dit. Pas voulu me parler.
Ça, c'est l'impasse.
Voilà.
Et la surprise, et la bonne surprise.
La bonne surprise, qui n'est pas vraiment une surprise, c'est que j'ai pu tourner avec des chassidim. Ce qu'on a beaucoup de mal à faire en général. Alors, il y a énormément de chassidim à Vienne.
Oui, on voit des images.
J'en ai tourné beaucoup plus. Et en fait, il suffisait de parler en yiddish avec eux, et c'était gagné. La première rencontre, avec un des responsables, il m'a dit, je me suis adressé à lui en yiddish. Alors, il me dit, d'où est-ce qu'il était, ton grand-père? Alors, j'ai dit, de Pshemeshel. Et je dis, et vous, le vôtre? Il me dit, de Bels. Je dis, ah, Bels, Majestät de Bels. Et on s'est mis à chanter la chanson. À partir de ce moment-là, on a pu faire ce qu'on a voulu.
Oui, parce que c'est ça ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est qu'à travers ce grand-père, voilà, c'est la séquence qu'on évoquait précédemment sur ce qui se passe dans le train. On rentre dans cet univers yiddish, dans cet univers qui était celui dans lequel il a vécu. Il y a aussi toutes les interrogations.
Oui, tous les Steitler. Oui. Avec toutes les professions. Enfin,
Ferblantier.
Donc là, ce n'était pas n'importe quelle profession, puisqu'il y a aussi ces chandeliers qui vous accompagnent.
Oui, il y a aussi les chandeliers.
Donc, qui sont des chandeliers de Shabbat. Enfin, on n'est pas quand même...
Oui. Ils sont chez moi, que je garde précieusement. Et un jour, ça sera mes enfants, puis mes petits-enfants. J'espère que c'est une des choses qui va se transmettre. Mais en même temps, il y a des choses... Quand je dis que... quand je lui fais dire qu'il a appris le métier de ferblantier dans l'atelier, en écoutant et en regardant, et que c'est important, et quand il dit... J'ai compris petit à petit que lorsqu'il discutait d'une forme à donner à un bougeoir, un chandelier, il le faisait voir haut devant moi. Moi, je suis un ancien tailleur. J'ai 14 ans et demi, je suis rentré dans un atelier et j'ai appris sur le tas. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'on me faisait faire des choses dont je ne connaissais pas, je n'imaginais pas l'utilité. Mais c'est aussi ça l'apprentissage. Même de balayer un atelier, c'est aussi ça. Pendant qu'on balaye, on fait quelque chose, on ne se rend pas inutile. Et c'est cette expérience de tailleur que j'ai transposée pour lui, mais c'est lui qui me le raconte.
Oui, et puis vous interrogez aussi sur les chandeliers de Shabbat, sur finalement, vous qui êtes un peu éloigné de votre propre judaïsme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Non, c'est parce que je ne suis pas religieux, mais cela dit, oui. J'ai l'impression de connaître les récits racidiques de Martin Buber par cœur, alors qu'il y a 800 pages quand même.
Et c'est vrai que c'est cette scène-là qui fait vivre tout ce moment-là, en fait. Vous recréez tout ce monde
avec les dessins, oui. Comment vous avez procédé avec la dessinatrice?
Alors j'ai écrit le texte, et j'ai mis du temps à écrire le texte. Enfin, voilà. Une fois que c'était fait, je lui ai donné. Et alors on se connaissait, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé pour moi, pour plusieurs films. Et elle s'est renseignée, elle a trouvé des livres de photos, elle a regardé les dictionnaires, elle n'a rien demandé à personne. Elle a trouvé sur Internet la langue yiddish, comment on disait boucher, etc. Elle a tout dessiné. Et elle a démontré, si on ne le sait pas encore, qu'on n'a pas besoin d'être juif. Il suffit d'être un grand artiste. Et on peut dire les choses aussi bien que n'importe qui.
Alors, Robert Bobert, ce n'est pas seulement un film qui est en préparation, mais aussi un livre qui sortira le 5 octobre dans la collection POL chez Gallimard. Qu'avez-vous mis dans le livre qui ne pouvait être dans le film?
Le film fait 1h15 et il faut plus 1h15 pour lire le livre. Voilà, tout ce qu'on ne peut pas mettre. Alors, je ne l'ai pas fait pour dire, je vais mettre tout ce que je n'ai pas eu la place. C'est mon éditeur, quand il a vu le film, il a dit il faut faire un album absolument. On avait déjà fait avec Perec l'album qu'il avait publié sur les récits des Laissez-Landes, qui a à voir donc avec le film, mais qui a un autre traitement. L'album peut se lire indépendamment du film. L'album n'est pas là pour prolonger ou pour illustrer quoi que ce soit. Le film existe, le livre existe. Alors, si on a les deux, c'est bien. Et puis surtout, comme il y a le texte du film, si on a envie de j'ai beaucoup travaillé sur le texte, ça donne le temps de lire ou de relire ce qu'on s'est contenté d'entendre.
De réapprofondir toutes les citations que vous avez dans le film.
Il y a que je prends un peu partout. Et même sur Thomas Bernhard, qui considérait, après sa mort, que l'Autriche des années 60 était plus antisémite encore que l'Autriche d'avant-guerre. Il était détesté en Autriche. D'ailleurs, je le cite, il a écrit cette fameuse pièce Heldenplatz, en français La place des héros, qui a été jouée, que j'ai pas vu au théâtre, je ne connaissais pas cette pièce, où il le dit, cette pièce, il a mis très longtemps à essayer de l'imposer, ça a été interdit, voilà. C'est la dernière pièce de lui qui a été jouée avant sa mort. Et Heldenplatz, c'est la fameuse place où Hitler a fait son grand discours à Vienne devant 200 000 Autrichiens en délire.
Oui, image qu'on voit dans votre film.
Oui.
Donc votre film est un tout petit peu un règlement de compte avec l'Autriche aussi, un peu comme Thomas Bernhard. Et d'ailleurs, c'est peut-être.
Il règle ses comptes d'une manière tout à fait ouverte, c'est très ouvertement qu'il règle ses comptes. Moi, je n'étais pas venu pour régler des comptes. Simplement, je le cite, et puis j'avais écrit un premier texte qui était beaucoup plus sévère encore, mais je voulais justement pas que ça ressemble à un règlement de compte. Il fallait que ce soit un constat, simplement.
Et le constat, vous l'avez fait, quoi, d'une Autriche amnésique, enfin.
Il y a une phrase qui avait été enregistrée, mais comme c'était la seule phrase, enfin une des rares phrases tout à fait audible. Il y a un couple qu'on voit, lui mange un strudel, elle lit. un article de Goebbels. Et lui, tout en mangeant, et sachant filmer, hein, puisque j'étais à 2 mètres de lui, caméra sur pied, enfin, je l'entends dire, oh, je crois qu'aujourd'hui, il dirait les choses peut-être un peu autrement. Voilà l'opinion qu'ils ont sur les... ils ne voient pas le mal.
C'est toujours pas compris.
Bon, mais il va falloir que le film circule pour raviver un peu les mémoires.
J'espère, oui. Mais j'espère surtout que comme c'est une coproduction avec l'Autriche et l'Allemagne, j'espère qu'il va être montré en Autriche.
Je vous remercie, Robert Bobert. Je rappelle que votre film « Vienne avant la nuit » sortira en salle mi-octobre et qu'il a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info et www.mémoirevive.net, ainsi que sur l'appli RCJ.